La libre antenne d'Europe 1.
Et nous accueillons Laure au 39-21. Bonsoir Laure.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous Laure?
Écoutez, je vais bien et j'ai un peu la voix enrouée, c'est l'émotion. En tout cas, je suis vraiment ravie et très touchée de ce rendez-vous avec vous ce soir.
Merci beaucoup. Alors, vous allez un peu recontextualiser votre appel de ce soir, parce que je sais que nous nous sommes parlé il y a quelque temps, avant le confinement,
oui.
Hein, c'est ça?
Oui, il y a un an en fait.
Il y a un an.
C'était il y a un an, oui, d'accord. Tout
est-ce
à
que,
fait.
Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous appeliez à l'époque?
Oui, alors en fait, je m'étais rapprochée de vous parce que vous êtes une personne que j'apprécie par votre sensibilité, votre écoute. Et à cette époque, je me sentais assez au fond du trou, très complètement perdue, parce que donc je suis maman d'un jeune garçon qui a maintenant 14 ans. Et lorsque je vous avais appelé, j'étais séparée de son papa et divorcée depuis 3 ans. Et j'avais une relation très très proche de mon fils. On a toujours été très proches. Et donc on s'est séparés avec son papa. C'était au mois de septembre et il a passé le Noël avec lui. Je lui avais demandé avec qui il souhaitait passer son Noël, parce que pour moi c'était très important. Et il a voulu passer Noël avec son papa, ce que je comprenais tout à fait, parce que son père a une plus grande famille que la mienne, si je puis dire. Et quand il est revenu, Antoine m'a dit avec ses mots d'enfant, parce qu'il avait 11 ans à l'époque,
oui.
Eh bien, maman, je veux plus vivre avec toi, je pars, je vis avec papa. Et dans ma tête, ça fait un bang et j'ai fait la bêtise de prendre trop de cachets pour oublier, pour me dire que c'était pas possible. Et après, il y a eu tout un engrenage où j'ai été hospitalisée, mais ça, à la limite, c'est pas bien important, mais c'est que j'ai été complètement détachée de mon fils Antoine. Et ça a été très dur, quoi, parce que on se voyait à peine. Ça me paraît loin, on est en 2020, on est, donc c'était en 2017 et on s'était peut-être vu 50 jours. Je sais que l'an passé, on s'est vu à peine 10 jours, voilà. Et il avait complètement coupé les ponts avec moi, il m'avait bloqué de son téléphone, il ne voulait pas me parler, il m'envoyait des mots très obscurs et je connaissais pas la raison.
Bah, on avait tout de même évoqué à l'époque, Laure, la violence d'abord la violence avec laquelle vous avez pris cette nouvelle, hein, de la part d'Antoine, mm-hmm. parce que c'est quelque chose qui vous avait, vous vous êtes totalement effondré à l'époque suite à cette annonce de votre fils. C'est quelque chose qui vous avait totalement détérioré, hein, vous étiez rappelle.
Anéanti. Parce que, oui.
Et,
je ne comprenais pas du tout. Et puis, je l'avais pas. J'avais eu aucun pressentiment par rapport à ça. Donc
mais non, votre relation était très forte en plus à l'époque, hein, me semble-t-il. Ça, tout
oui.
allait bien.
Ah, complètement.
Et puis, on avait évoqué aussi, justement, la réaction d'Antoine après votre tentative de suicide, parce que c'était quelque chose. Qui était extrêmement violent pour lui. Hein. Il avait eu du mal à comprendre comment vous aviez pu faire ça. Et c'est ce qui vous avait, en tout cas, c'est ce qui l'avait éloigné fortement de vous. Hein. Il était dans, il était, je me souviens, dans une réactivité à votre égard assez violente.
Oui.
Un rejet total. Alors, qu'est-ce qui a évolué depuis ce coup de fil que nous avons eu, où on avait décidé quoi lors de ce coup de fil?
Alors, en fait, vous m'aviez conseillé de toujours garder cette confiance par rapport à Antoine, de garder ce lien, même si je n'avais pas de, même si le silence restait, que c'était très important, et aussi de me reprendre, d'être plus forte, car ça aurait été pour Antoine très important de retrouver une maman plus sereine, plus solide. Mmh. Voilà, parce que c'est vrai que j'étais dans une phase où j'étais suivie au niveau médical, parce que j'étais, c'est vrai, j'étais très, très dépressive, j'étais difficile à comprendre, difficile à cerner, et moi-même, je me sentais perdue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est assez bizarre, c'est que j'ai eu un total déclic avec, je me rappelle, c'est ce que j'ai confié à Natacha, excusez-moi, c'est un peu décousu, donc
non, non, pas du tout, allez-y, je vous en prie. Non, non, tout va bien, tout va bien.
J'ai eu un énorme, comment on dit,
une prise de confiance.
Un électrochoc, voilà. Mm-hmm. J'ai eu un énorme électrochoc lorsque j'étais chez mes parents et que j'ai appris par les infos qu'en Chine, ils allaient construire un certain nombre de structures hospitalières car il y avait un virus qu'ils n'arrivaient pas justement à contenir, à soigner. Et là, je me rappelle, je me suis dit, oh, c'est... Si en Chine, ils avouent qu'ils ont une maladie qu'ils n'arrivent pas justement à guérir, c'est la cata, quoi. Ça, c'est un truc, en plus un virus, pour moi, c'était... Ça a l'air un peu idiot, mais ma grosse trouille, ça a toujours été soit les virus bactéries ou les virus informatiques. Et là, je me suis dit, on va vivre quelque chose de complètement... complètement nouveau, mais assez difficile. Et donc, après, il y a eu l'annonce de la fermeture des restaurants, l'annonce de la fermeture de pas mal de choses, et puis le fait qu'il fallait être confiné. Voilà. Et cette période, en fait, de confinement m'a forcé de me retrouver face à moi-même.
Alors, vous allez me raconter ça, parce que pour... pas mal d'entre oui. nous, cela a été une prise de conscience, hein, cette période, oui. cette fameuse période de confinement. Mm-hmm. Et il est vrai que nous sommes beaucoup à avoir retrouvé tout un tas de sensations que nous avions presque oubliées. Hein. On marque une petite pause, si vous le voulez bien, et puis on va continuer à évoquer tout cela. Alors, à tout de suite.
À tout de suite, merci.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
22h45, vous êtes sur votre libre antenne et sur Europe 1. Merci à Aurore au 739-21, charmant dictionnaire de synonymes qui vient Tamarescus. Mille merci Aurore pour vos suggestions. Nous sommes avec Laure qui évoque sa relation à son fils, son jeune fils Vincent. Une relation qui s'est retrouvée... pratiquement anéanti hein, à un moment suite à cette annonce de vouloir aller vivre chez son papa et vous plongeant alors dans un désarroi total. Vous évoquiez donc cette période de confinement, en même temps oui. teintée d'angoisse, de peur par rapport au fait que... quel rapport avec Vincent en fait ? Est-ce qu'il y en avait un ou c'était une peur qui vous habitait depuis longtemps ?
Avec Antoine ?
Non, la peur de ce virus. Vous m'avez dit, j'ai toujours eu peur oui. d'un virus, soit informatique, soit un microbe. Pourquoi cette peur, en fait ?
Parce qu'en fait, pour moi, c'est quelque chose... c'est un domaine inconnu et c'est un domaine où je sais qu'il est difficile, en fait, pour les chercheurs de trouver des solutions et des remèdes. Et donc, c'est quelque chose qui est un peu anxiogène pour moi. Et c'est peut-être aussi au fait que j'ai eu une méningite il y a quelques années qui a été due, en fait, à une bactérie qu'on n'a pas réussi à définir à la Rivoisière et qui fait que bah, on a tout le temps un peu, enfin, j'ai tout le temps un peu, c'est, bon, ça me tourmente moins, mais on se dit tout le temps, ah, c'est oui, c'est un peu bizarre, quoi. Ça fait un peu comme une espèce de petite bombe à retardement ou un petit truc qui fait, ça peut revenir d'un moment à l'autre et c'est un petit peu inquiétant, quoi. C'est, voilà, ça a un côté un peu non défini et je suis peut-être un peu trop cartésienne du coup par rapport à ça. C'est peut-être ça qui fait que j'ai cette angoisse-là. Mais du coup, avec le confinement, en fait, ça a été très paradoxal parce que, voilà, je me suis retrouvée, en fait, bah, comme ce que j'aurais aimé pouvoir faire quand j'étais dans cette période de grande tristesse, c'est-à-dire aller dans un monastère et faire un séjour de quelques jours pour me retrouver dans une sorte de plénitude, de silence très apaisant. Et donc, je me suis retrouvée un peu dans cet environnement-là. Et ce qui m'a permis, pardon, de m'apaiser. Et en même temps, je culpabilisais beaucoup par rapport à mes parents, à mes proches, à mes collègues qui se souciaient de moi parce qu'ils me savaient toute seule, et ils savaient aussi que j'étais pas encore, j'étais un peu en équilibre tout le temps. Et j'ai eu un choc aussi en regardant, ça a l'air complètement anodin, mais on a un planning en fait au travail avec nos temps de présence et nos temps d'absence. Et quand j'ai vu le planning de l'année 2019, pardon, mais qui était rempli de rouge. Et donc le rouge se répond en fait, se référencie à des absences pour maladie. Là, je me suis dit non, je veux plus. C'est plus possible. Il faut que je bouge là. Donc, bah, j'ai eu le Covid, mais de façon bénigne, si je puis dire, parce que ça s'était arrêté à une perte de goût, à des fortes migraines et à des énormes gros coups de fatigue. Mais j'ai pas du tout eu j'ai pas du tout été amenée à être hospitalisée. Donc ça, c'est une très grande chance par rapport à d'autres malades qui ont eu ces grosses difficultés-là. Et donc, en fait, par rapport à ça, j'ai complètement zappé mon traitement d'antidépresseur, etc. Ce qui fait qu'en fait, je me suis... j'ai fait un sevrage à la maison. Donc, j'étais pas au top pendant 2 semaines, mais de toute façon, avec la Covid, j'étais pas au top non plus. Donc, ça faisait 2 en 1, c'était pas plus mal. Et en fait, après, ce que j'ai pu apprécier, c'était de me retrouver, de retrouver des sensations que j'avais perdues à cause des médicaments. C'est-à-dire de retrouver des... Je me suis remise à écrire sur un petit carnet des listes avec des choses que j'avais envie de faire, d'écouter, de lire, de regarder. À Paris, ce qui était agréable, je ne sais pas pour vous Olivier, mais j'avais complètement oublié le chant des moineaux.
Oui.
Et ça, c'était super.
Le chant des moineaux étant revenu hein, tout de même avec ce confinement, parce que
exactement.
Oui. Vous avez comme beaucoup de Parisiens redécouvert que la nature existait tout de même à Paris, mais qu'elle était complètement recouverte par la vie des humains, par le bruit de la ville. Ouais.
Mm-hmm. Revoir un beau ciel bleu, parce qu'on a quand même eu, si je puis dire, pendant le confinement, la chance d'avoir eu des jours ensoleillés, avec un ciel bleu et pas un ciel de novembre pluvieux. Et donc, je continue à écrire à Antoine, toutes les semaines, même si je n'avais pas de réponse. Je le vivais plus sereinement, en me disant pour moi c'était très important qu'Antoine soit assuré que j'étais là, que j'étais là pour lui. Je faisais très attention aussi à ma santé, à bien manger, à faire des exercices, des choses comme ça, par rapport à mes parents, pour qu'ils soient rassurés que je me sentais bien. Parce que s'ils savaient que je me sentais bien, je savais qu'eux allaient bien. Donc c'était très important, parce qu'on est très très proches tous les trois. Oui. Et puis, dès que le déconfinement a eu lieu, vers le mois de mai, Antoine m'a contacté.
Pardonnez-moi de vous interrompre, mais quel était, durant tout ce confinement, est-ce que Antoine a ressenti cette nouvelle énergie qui vous habitait? Est-ce que vous lui en avez fait part, ou comment l'a-t-il est-ce qu'il l'a vécu un peu comme ça à distance?
Non, en tout cas, il ne m'en a pas parlé, pas du tout. En fait, c'est lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit: maman, j'ai retrouvé ta voix que tu avais quand j'étais enfant. Et il m'a dit, ça m'a fait super plaisir. Il m'a dit, ça y est, maman, elle va mieux. C'est bien. Et ça, c'était la plus jolie chose qu'il pouvait me dire aussi, qui m'a remise en confiance. Et là où je me suis dit, parce que c'est pareil, à un moment, mon médecin était venu me voir, et c'est un médecin... C'est plus qu'un médecin, c'est vraiment un médecin de ville, c'est presque quelqu'un de la famille. D'ailleurs, on l'appelle tonton par son nom de médecin, parce que voilà. Il est adorable. De toute façon, on sait, lorsqu'on va dans sa salle d'attente, on compte le nombre de patients qu'on a, et on sait que c'est au moins une demi-heure par personne, parce que il connaît tout le monde du quartier dans le 20e où je suis, et il est très proche de tout le monde, et on l'apprécie vraiment beaucoup beaucoup. Mmh. Et une fois, il m'avait rendu visite, et je lui avais dit: oh là là, je suis très gênée, vous allez peut-être pas vouloir me répondre, mais tant pis, j'ose vous poser la question, mais si ça vous gêne, vous me répondez pas. Et je lui ai demandé: est-ce que vous pensez que je suis une maman, que je suis une bonne maman? Et là, il m'a regardé, il m'a dit: mais bien sûr, il me dit, mais il n'y a pas de problème, vous êtes vraiment une bonne maman, quoi. Ça, faut pas vous en faire pour ça. Et bon, déjà, ça m'avait soulagée, ça m'avait remise en confiance. Et quand Antoine m'a appelée, donc il voulait savoir comment j'allais, si je travaillais, si je voyais du monde, si je faisais des choses. Moi, évidemment, je me suis... j'ai tout de suite voulu savoir s'il avait des bons copains, si ça n'avait pas été trop difficile de ne pas aller au collège, s'il avait quand même pu garder des contacts, voir du monde, etc. Et donc, ça s'était bien passé. Et donc, il a voulu qu'on se retrouve pour déjeuner un midi sur Verbastix, ce qu'on a fait, bien sûr. Et puis, ça s'était très, très bien passé. J'ai pas voulu évoquer tout de suite pourquoi il y avait eu ce silence, qu'est-ce que j'avais pu faire, qui avait fait ça, bien que je savais que mon suicide avait été
très mal perçu par lui,
de ce silence, et que ça l'avait énormément bouleversé. Déjà, il y avait eu le divorce, ensuite il y avait eu ça, donc pour lui, c'était très, très, très lourd, ça.
Bien sûr. C'est comme si... On l'avait évoqué à l'époque, Laure, hein. C'est comme si vous l'aviez abandonné.
Complètement. Mais j'étais dans un tel mauvais trip que
Bien sûr. Mais ça n'est pas du tout...
Je ne le percevais pas du tout.
Cette réflexion que nous avions à l'époque n'était pas teintée de reproches. C'était une constatation, en fait.
Mais oui. Tout à fait. Et c'est ce que mon médecin, justement, au CMP aussi me disait. Mais moi, j'avais dû... Comment dire, je l'acceptais. Mais j'avais du mal à le comprendre, en fait. À voir ce que ça voulait dire. Je ne percevais pas les choses. Et puis ensuite, Antoine m'appelait régulièrement. Il a évoqué le souhait de vouloir passer un mois de vacances tous les deux. Donc j'étais ravie, enchantée. Et comme la période était aussi un peu compliquée, je lui ai dit, écoute, on va partir une semaine, on va aller à Tours, c'est la campagne, c'est ce que tu adores.
Alors,
oui, pardon.
Avant que... Non, mais je vous en prie, avant que nous continuions, on va marquer une pause parce que l'info arrive sur Europe 1. Et puis, vous allez nous raconter après ces retrouvailles, car il me tarde de voir ce que ce petit bonhomme a éprouvé et comment vous avez relié tout ça. On se retrouve dans quelques minutes, d'accord, Laure ?
D'accord, Olivier.
À tout de suite. Vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à nous appeler au 39-21 et évoquer votre histoire, la partager tout d'abord avec Florian. Et puis peut-être que nous aurons le plaisir d'échanger ensemble, chers amis. Pour l'instant, nous sommes avec Laure qui nous raconte ses retrouvailles avec Vincent, son fils Vincent. Vincent a quel âge aujourd'hui, Laure ?
Alors Antoine a 14 ans maintenant.
Je l'appelle Vincent, moi ça va beaucoup mieux. Antoine, pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi d'un seul coup je l'ai, vous voyez, je l'ai rebaptisé. C'est ma grande spécialité. Je suis désolée.
J'ai des problèmes avec les prénoms aussi.
Alors cet Antoine a 14 ans.
Oui. Alors déjà c'est vrai que lorsqu'on s'est revus, ça a été un grand. Déjà au téléphone, ça a été un grand wow parce que au début je pensais que c'était une blague parce que je ne reconnaissais pas du tout sa voix. Ce qui est normal parce qu'il avait, il a grandi, hein. C'est un jeune homme, hein, maintenant. C'est comme si moi je vous parlais, bonsoir Olivier, ça va bien, voilà. Ouais. Il a une voix très très grave. Et quand on s'est vu, il me dépasse. C'est un jeune homme. Je le reconnaissais. Non, je ne le reconnaissais pas. Enfin, il y avait des traits que je reconnaissais, mais oui, il a beaucoup, beaucoup changé. Et donc, on est parti. Donc, au début, on est resté une semaine sur Paris. Après, on est parti donc une semaine sur Tours pour faire le plein de nature, de balades à vélo et tout ça. Et ça a vraiment été bien parce que Antoine m'a fait partager ce qu'il aimait. Donc... ses goûts musicaux, au niveau du rap, des chanteurs comme Attic, que je connaissais pas du tout et que j'écoute maintenant parce que j'apprécie aussi. Il m'a fait découvrir des humoristes qui regardent sur YouTube. Donc, il m'a fait découvrir son petit monde, sa vie. Il me parle beaucoup de son copain. Et là, je suis ravie qu'il ait enfin pu avoir... trouver ce qu'on appelle le bon copain. Quand on est ado, le confident, celui avec qui on sort, on se raconte des trucs, on fait des blagues, etc.
Très important, très important.
Et en plus, qui est avec une maman qu'Antoine apprécie beaucoup. Et pour moi, ça m'a beaucoup aussi rassurée de savoir qu'Antoine puisse aussi avoir un bon réconfort aussi maternel par cette dame avec qui qui s'appelle Séverine et d'après les confidences d'Antoine qui est quelqu'un de plein de bon sens et de plein d'attention pour Antoine et ça me rassure beaucoup parce que du coup je sais que là où il est il a une épaule aussi à qui se confier, une adulte avec qui il peut se confier.
L'IA au 739-21 nous demande si Antoine vous a voulu évoquer cette période trouble où vous avez voulu mettre fin à ses jours. Est-ce qu'il est revenu là-dessus ?
Alors, quand il est revenu, quand on s'est retrouvés tous les deux ensemble à Paris, donc à la maison, déjà, je lui ai demandé pourquoi ce silence, justement, si c'était dû à cela. Et même moi, j'ai du mal à poser les mots justes par rapport à ça. Et il m'a confié qu'en effet, ça l'avait traumatisé. Il n'avait pas compris. Pour lui, c'était... je ne voulais plus le revoir.
Oui.
Et voilà, pour lui, c'était vraiment ça. Et je lui ai dit, ah non, pas du tout. Je lui ai dit, même jamais. Je dis, jamais, je n'ai plus voulu te revoir. Et je voyais qu'en même temps, il était embarrassé, il était confus, il ne savait pas. Et ce que je comprenais d'autant plus que même moi, pour certaines situations, je n'arrive pas à trouver les mots. C'est vrai que c'est difficile à expliquer.
C'est difficile pour lui de comprendre, parce qu'on peut facilement comprendre que du haut de ses... il avait 11 ans hein, quand ça s'est passé.
Oui.
On peut comprendre que du haut de ses 11 ans, il n'est pas du tout compris dans quel état vous vous trouviez. En fait, souvent, lorsqu'on commet ce type de geste, on est déjà loin et difficile pour les proches d'admettre et de comprendre qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien qui compte, plus personne, et que seule la souffrance, en fait, doit être abrégée.
Oui.
Et c'est ce qu'il y a de très difficile à comprendre déjà pour des adultes. Donc, imaginez pour un enfant.
Ah oui. Non, c'est sûr. Et puis Antoine était très gêné aussi par rapport au comportement qu'il avait eu avec moi et avec mes parents. Et je lui ai dit, tu sais Antoine, de toute façon, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Voilà, on ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas le changer. Et en même temps, si ça s'était passé, peut-être que maintenant, ce ne serait pas pareil. Donc, ce qui compte, c'est de vivre les choses au présent, qu'on soit bien ensemble, qu'on arrive à se dire les choses sereinement, facilement. Et voilà.
Vous n'avez pas du tout évoqué l'attitude de votre ex-mari, ou en tout cas le papa d'Antoine. Est-ce qu'il a joué un rôle dans tout cela? Je suppose que oui, non que...
Son père?
Oui.
Oh non, pas du tout, au contraire. Ça a toujours été... Alors c'est une anecdote que je vais essayer de synthétiser très rapidement.
Oui.
Donc avec Antoine, on se revoyait donc, de façon beaucoup plus régulière. Et puis Antoine était tout content de m'annoncer qu'il allait avoir un nouveau téléphone, etc. Qu'il allait le comparer avec le mien. Donc il vient me voir, je vois qu'il a une petite tête, qu'il est content, mais qu'en même temps, il a une petite tête. Et je lui dis, t'as l'air déçu. Il me dit, ouais, j'ai pas encore reçu mon téléphone, je comprends pas. Oh, je lui dis, c'est pas grave, tu vas l'avoir dans 2 jours. Tu sais, des fois, c'est là, en ce moment, avec les commandes, c'est un petit peu décalé. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Et donc, c'était le lendemain, nous étions un samedi, et c'était un samedi où il y avait une très grosse manifestation sur Paris, avec deux jeunes, justement, par rapport à un adolescent qui avait été... qui avait eu des problèmes avec la police. Et donc, c'était un mouvement assez important qui se passait. La manifestation était de République à Opéra. Et donc... Antoine était déçu toujours pour son téléphone. Je lui dis, écoute, appelle ton papa pour savoir s'il l'a reçu. Et il me dit, écoute, papa me dit qu'il ne l'a pas reçu, qu'en fait, c'est foutu, mais qu'on peut aller à l'Apple Store à Opéra, le prendre. Il suffit que tu le payes et puis c'est bon, il te remboursera la moitié. Et alors là, je regarde Antoine. Je lui dis, écoute Antoine, je suis très embêtée, mais c'est pas possible. Je dis, parce que déjà, moi, je suis pas au courant de cet achat. C'est une somme très importante, trop importante pour moi. Je peux pas. Et je vais être peut-être trop directe, mais j'en ai assez que quand ça se passe bien entre nous, ton père me met dans des situations où je suis très mal à l'aise, où je me retrouve au pied du mur, où tu vas me trouver peut-être méchante parce que voilà, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, mais moi non, je peux pas, Antoine. Et il m'a regardé, il m'a dit, maman, je comprends. Bon, et là, je me suis dit, ça va être parti, Antoine va partir déçu, il va se dire que je fais aucun effort. Et en fait, il m'a expliqué que non, qu'en fait, ça l'a rassuré que je dise non.
Super.
Ça l'a rassuré que je reste sur ma position, que j'ai mon avis soit clair, et que ce n'était pas contre lui. Il l'a compris. Parce que je lui ai expliqué, en fait, la situation inverse. Je lui ai dit, mais mets-toi à ma place, voilà, si toi, c'était comme ça, comment tu le prendrais ? C'est pas évident, c'est pas... Et puis, on peut pas tout avoir non plus comme ça, en claquant des doigts. Voilà, la vie, c'est pas ça. Enfin, moi, c'est des principes auxquels je n'adhère pas. Tu sais comment je suis par rapport à certaines choses, et voilà. Et donc ça l'a rassuré, il l'a apprécié. Et puis, quand on s'est retrouvés à Tours, on était dans une chambre lit superposée, très petite. Et je peux vous avouer, Olivier, que je pense qu'il n'y a qu'avec Antoine que j'ai pu vivre sereinement une semaine comme ça, quoi. Parce qu'on était assez confinés et je me suis sentie très bien et lui aussi s'est senti très bien.
Bon, mais écoutez, vous m'envoyez ravi, ma chère Laure. Je suis très heureux parce que je pense que ce coup de téléphone que nous nous sommes donné, cette conversation que nous avons eue il y a un an... à contribuer un peu à ce redémarrage on est tous contents là pour vous, pour Antoine et contents de savoir qu'on a un petit peu contribué à tout ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Si j'avais seulement deux petites choses à dire aux auditeurs que j'écoute chaque soir lorsqu'ils témoignent. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup apporté, c'était de me dire que rechercher la vérité à un moment, c'était moins important que de retrouver sa sérénité.
Complètement.
Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je veux dire, mais je sais que je me suis beaucoup perdue. J'ai beaucoup perdu d'énergie, j'ai beaucoup perdu de contrôle de moi-même. J'ai beaucoup usé ce que j'aimais en voulant chercher la vérité. Et je me suis beaucoup apaisée, j'ai beaucoup apaisé mes aînés en retrouvant ma sérénité.
Et parfois, je vous interromps, mais parfois quand cette quête de vérité n'a de cesse de nous replonger dans un passé trouble, dans des relations troubles, parfois... il faut faire le sacrifice de cette vérité, parce qu'on peut s'abîmer à essayer de replonger tout le temps, de ressasser le passé.
En tout cas, c'était l'effet que ça me faisait. Et un truc tout bête, d'apprendre à prendre soin de soi et à respirer. Moi, j'ai trouvé un grand réconfort dans la sophrologie, la respiration. Alors, ça peut être pour d'autres la méditation ou le yoga, etc. Mais se retrouver des petits moments comme ça d'un quart d'heure, 20 minutes où...
On respire.
Voilà, on souffle. Et
on souffle.
Ça fait du bien.
On souffle et on est en pleine conscience que ce moment précis-là, on est en train de le vivre pour soi et qu'on sent... on sent son corps, on sent son esprit, on est seul avec soi-même et on a besoin de ce type de moment. Vous avez parfaitement raison, Laure, et vous avez compris quelque chose de très important. Mille merci pour ce témoignage rayonnant ce soir,
Laure.
C'est
moi qui vous remercie, Olivier. Hein. Et puis je remercie beaucoup aussi pour leur gentillesse, Natacha et Florian.
Très bien. Eh bien, je vous embrasse, Laure, et on vous embrasse
moi
tous.
Moi aussi, je vous embrasse.
Au revoir.
Et merci beaucoup pour toutes ces nuits que vous nous faites passer.
Je vous en prie.
Au revoir, Olivier.
Au revoir.
Merci.